bonjour à tous et bienvenue dans l'ère du jeu, votre rendez-vous qui parle de jeux vidéo, de high-tech, tous les samedis de 12h à 13h sur Radio Canu. J'espère que vous allez tous très très bien en cet excellent week-end. Et bien tout de suite, je vais annoncer la Dream Team du jour qui est avec moi, Moinas d'ailleurs, votre serviteur, votre humble serviteur, voilà. Et bien on va commencer par Flo.
Bonjour.
Hell yeah, Flo, comment ça va?
Ça va super bien.
Bien réveillé?
Ouais, ouais.
C'était tranquille. Une question piège. Tu mens à tes auditeurs.
Il faut toujours mentir aux auditeurs.
Flo qui a veillé un petit peu, mais qui est là, toujours présent, fidèle au rendez-vous. Et on a the greatest. On a Greg qui est avec nous aujourd'hui.
Salut, salut.
Come back.
Eh oui, de retour.
Comment tu vas?
Bah, ça va bien.
Toi, ça va, pas eu de problème pour te réveiller, pour venir?
Non, ça va. Ça va.
Toujours en forme, Greg. Ouais, les valeurs sûres, le sage et tout. Très bien, parfait, excellent. Et ben aujourd'hui, émission. Alors, émission un peu particulière. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte à la radio comme ça, mais mine de rien, on approche des 2 ans pour l'ère du jeu. Ça s'était fait, il me semble, le 13 mai. Donc, ça va se faire entre cette semaine et la semaine dernière. Alors, à cette occasion, il y aura rien de particulier, voilà. Histoire du Paris du sommaire, il y a Greg déjà, toi tu vas nous parler, vas-y, je te laisse lancer le truc.
Alors, je vais vous donner des thèmes barbares, je vais vous parler de JCC, de TCG et de DCG, qu'est-ce que c'est?
Ouais, alors moi je le sais, mais on va préserver le suspense.
Ouais, on dira rien.
Et Flo aussi, ça va.
Ouais, ça va.
Ça, tu maîtrises, tu gères. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, donc, écoutez, comme c'est les 2 ans, je me suis posé la question, mais déjà, qu'est-ce qui s'était passé l'année dernière, à la même période? Quels étaient les grands sujets qui faisaient un peu débat dans tout ce qui est jeux vidéo? Donc, j'ai mes magazines, d'ailleurs, là, vous les voyez pas, mais je les passerai au gars tout à l'heure. On en discutera un petit peu, on fera un petit bilan sur ce qui s'est passé, et je suis allé encore plus loin pour la troisième partie, puisqu'on va revenir sur les 2 ans. Donc, quand on a commencé cette émission radio, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Dans quel état nous avons repris le tout? Qu'est-ce qu'on nous avons apporté à l'industrie du jeu vidéo? En toute modestie, je le rappelle quand même, on le dit pas assez, mais l'ère du jeu, c'est peut-être une des seules émissions lyonnaises qui parle de jeux, de high-tech, voilà, pendant 1 heure. Donc, l'unique, the greatest émission pour tous les fans de high-tech, de jeux vidéo, etc., etc. On va commencer dans un instant, juste pour moi le temps de déjà rappeler que vous pouvez retrouver l'ère du jeu sur le Facebook de Game Age, voilà, donc vous allez sur Facebook, vous tapez Game Age, vous retrouverez les podcasts, vous pouvez réagir en direct sur Twitter via le hashtag ère du jeu, et j'en profite aussi pour remercier Griff et Arnaud qui ont géré l'émission la semaine dernière. Je n'étais pas là et je tiens à dire qu'ils ont fait du très très bon boulot. Je sais que Griff, ça n'a pas été facile parce qu'il a eu plein de petites surprises comme ça qui sont arrivées, mais tu t'en es sorti comme un chef, donc un grand bravo à toi Griff, voilà. Bon, ceci étant dit, je pense que tu vas pouvoir répondre un peu à la question que tout le monde se pose, Greg. À savoir, alors j'ai même perdu les termes tellement c'était beau. Mais juste pour moi, le temps de te, qu'est-ce que je te fais aujourd'hui? Allez, je te yoga fire, tiens. Yoga. Ça a loupé, je pense. Fire. Bon, tant pis. Ok, je la referai tout à l'heure, je recale le tout. Allez, vas-y, Greg. Je te laisse envoyer tout.
Bon, je voulais vous parler un peu d'une grande tendance du moment. Je pense que tout le monde connaît le jeu de cartes Hearthstone, hein, inspiré de Warcraft, qui cartonne, qui écrase tout sur son passage, et qui vient de sortir une nouvelle extension, donc qui change pas mal de choses dans le jeu, en intégrant notamment un format standard, un format étendu, enfin voilà, pas mal de nouveautés. Et en fait, moi, je vais pas vous parler d'Hearthstone, je vais vous parler qu'est-ce qu'il y a à part Hearthstone. Parce qu'il existe forcément un peu de concurrence à tout ça. Aujourd'hui, il y a clairement un marché qui est en train de se développer. Je vais vous donner 2-3 chiffres. Je vais pas vous inonder de chiffres, mais juste vous donner un peu de contexte.
Ouais, vas-y.
Et vous dire quelles sont les alternatives aujourd'hui à Hearthstone et qu'est-ce qui va buzzer dans les mois et les années qui viennent.
Oh, intéressant ça. Je m'en frotte les mains.
Voilà. Donc tout d'abord, un peu de contexte. Hearthstone, ils ont atteint la barre des 50 millions d'inscrits. Donc c'est assez énorme. Donner une idée, tu vas peut-être pouvoir m'aider, Flo. Je crois que World of Warcraft, au summum de son succès, devait avoir quoi, 15 millions d'abonnés, quelque chose comme ça.
Il y a une différence entre s'inscrire sur un jeu gratuit et payer un abonnement à un jeu.
Tout à fait. Ouais.
Le gars qui veut baver sur Hearthstone, quoi, qui veut.
Mais voilà, il y a 50 millions de comptes. Donc comme l'a dit Flo, c'est pas forcément 50 millions de joueurs, mais il y a quand même 50 millions de comptes. Et bah, ça génère 20 millions de recettes par mois.
Par mois.
Donc de, c'est 250 millions de dollars par mois et uniquement sur un truc dématérialisé, jeu de cartes. Quoi.
Donc c'est un jeu qui est extrêmement rentable. Hein.
Aujourd'hui, c'est une vraie mine d'or pour Activision. Pour vous donner pour mémoire, en fait, c'est une toute petite équipe hein, qui a développé Hearthstone. Je crois qu'ils étaient 8 au départ à avoir développé. Et à la base, Hearthstone, ça a été pensé pour les joueurs de World of Warcraft pour les occuper en attendant de rentrer dans les donjons. En fait, souvent les mecs attendaient devant la porte du donjon que le groupe se constitue, que tout le monde fasse ses potions, ses buffs, enfin bref, ils se sont dit comment on va occuper nos joueurs. Et on s'est dit on va faire un petit jeu de cartes autour de Warcraft sans prétention. Et donc aujourd'hui ça génère 250 millions de dollars de recettes.
Banco quoi.
Donc banco, et du coup bah, tout le monde s'est dit putain c'est la poule aux œufs d'or quoi, il faut que tous les éditeurs veulent maintenant leur jeu de cartes à collectionner. Le jeu de cartes en ligne, donc le TCGO, pour Trading Card Game Online. Aujourd'hui, le marché, c'est 1,3 milliard de dollars.
Ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train... Oui, c'est une explosion.
Non, non. Aujourd'hui, c'est un truc qui est hyper rentable. La moitié de ce chiffre d'affaires est fait sur PC. L'autre moitié est fait sur smartphone, enfin sur device nomade, quoi. Et ça va encore plus se développer ce chiffre d'affaires sur les smartphones et sur les tablettes. Donc il y a un enjeu stratégique pour tous les éditeurs.
Oui, c'est vrai que c'est là où j'ai entendu que ça avait un peu explosé le truc, parce qu'au début, il me semble que c'était juste sur ordinateur.
Exactement.
C'est ça. Après, ils ont développé le tout pour tablettes et smartphones, ce qui a rendu la chose accessible au plus grand nombre.
Exactement.
Et finalement, c'est là où c'est explosé. Par contre, il y a un truc qui... j'en ai discuté un peu avec Flo, l'expert en cartes. Il me disait que les trading cartes, c'était plus pour ce qui était physique, non, en général.
Pas forcément plus physique, mais dans trading card, il y a trading qui signifie échange. Et par exemple, dans Hearthstone, ce n'est pas un trading card game, parce qu'on ne peut pas échanger les cartes qu'on a.
Exactement, bien vu. Ouais.
C'est ce qui est encore, les jeux comme ça sont généralement encore plus rentables pour les éditeurs, parce que les joueurs sont obligés d'avoir les cartes eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se les faire prêter par des potes.
Et ouais, d'acheter les cartes. Donc effectivement, la nouvelle appellation maintenant, c'est DCG pour Digital Card Gaming.
Voilà.
Bon, j'ai trouvé ça pendant mes recherches. Donc, Hearthstone, pour aller vite, parce qu'encore une fois, je ne veux pas forcément parler que d'Hearthstone. Mmh. Aujourd'hui, ça représente 20% du marché de ces jeux de cartes, entre guillemets, en ligne. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 80% de ce fameux 1,3 milliard de dollars qui est fait par d'autres jeux. Et c'est ces autres jeux-là que je vais vous présenter, parce que finalement, Hearthstone, on en entend beaucoup parler. C'est le jeu le plus joué aujourd'hui, c'est le jeu qui a démocratisé un peu le genre en ligne, mais c'est pas lui qui rapporte tout quoi, au niveau du chiffre d'affaires.
Je suis plutôt surpris. Ouais.
Donc déjà, est-ce que vous en connaissez quelques-uns?
Alors, ouais. Flo, oui.
Allez, Flo.
Moi, j'en ai un, je me lance parce que je suis moins expert que toi. Est-ce que je me trompe si je dis Duel of Champions?
Oui, ouais. Tout à fait, ouais, très bien. Ouais.
C'est bon, voilà.
Alors,
bon,
Duel of Champions, c'est un des tout premiers, c'est le jeu d'Ubisoft, donc j'en parlerai tout à l'heure, il était là bien avant Hearthstone. Flo ?
Ah bah, c'est celui-là le premier que j'avais en tête, parce que j'ai beaucoup joué.
Ah. Ouais.
Et j'en ai plein d'autres en tête, mais retrouver leur nom là comme ça, à froid, c'est chaud.
Bon, alors rapidement, pour les jeux de cartes, qui pour le coup sont des vrais trading card games, donc comme l'a très justement dit Flo, on peut échanger ses cartes. Donc il y a Magic hein, qui était le premier à venir sur PC, Magic The Gathering, qui est là depuis quasiment 10 ans, si c'est pas plus. Quoi.
Ouais, peut-être même plus.
Enfin, ça fait très longtemps que c'est là. Donc Magic, eux, ils ont choisi une stratégie, c'est-à-dire que les joueurs de Magic comme Flo, par exemple, qui jouent vraiment à Magic avec des vraies cartes, bah, tu dois acheter tes cartes en vrai. Et si tu veux jouer à Magic Online, bah, tu dois racheter tes cartes aussi en virtuel, entre guillemets. Et c'est quasiment le même prix, donc c'est vite un investissement.
C'est quand même... petite parenthèse là-dessus, parce que je connais un peu. C'est quand même... Les cartes sont genre 2 à 3 fois moins chères en ligne.
Ouais.
Et surtout, ils ont fait une option qui justifie le fait de payer aussi cher pour des cartes en ligne, c'est qu'une fois que tu as réussi à réunir toute une collection, une édition complète, 100% des cartes de l'édition, tu peux choisir de les enlever de ta collection en ligne et ils te l'envoient par la poste.
D'accord. Donc effectivement, il y
a quand même un côté...
Tu peux avoir
donc tes cartes en vrai, non ?
Oui. Okay. Ça les enlève de ta collection en ligne et ça tu les apprends en vrai.
Ah, c'est cool ça. Enfin, pour ceux qui font des compétitions et tout, ouais, c'est pas mal.
Le problème de Magic aujourd'hui, c'est que étrangement, ils sont pas sur sur tablette ni sur sur smartphone. Ils ont une stratégie qui est uniquement sur PC. Alors Flo, tu vas peut-être me contredire.
Non, pour l'instant c'est vraiment le cas. En fait, c'est dû à la complexité de Magic et des règles par rapport aux autres TCG qui ont été pensés pour le online. Ouais. Magic, c'est un jeu papier à la base et il y a beaucoup d'interactions qui sont très compliquées à mettre en place. Le jeu online est très gourmand en ressources pour les PC. Ouais. Et aujourd'hui, il me semble qu'ils recrutent toute une team pour développer justement une nouvelle mouture qui pourra tourner sur tablette, etc. Mais pour l'instant, ouais, c'est que sur PC.
Alors, j'ai pas les chiffres de Magic, hein, parce que Wizards of the Coast, ils sont assez, ils ont du mal à donner des chiffres, mais il y a quand même énormément de monde qui joue encore à Magic. Mmh. Le problème aujourd'hui de Magic, c'est que c'est un jeu qui a quoi, qui a 20 ans maintenant. Enfin, moi, je jouais ça, j'étais au collège.
93.
Donc ça fait quand même un certain moment. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de règles, et c'est pas forcément abordable. Et ce qui a fait le succès d'Hearthstone, c'est justement que c'est abordable pour les nouveaux joueurs. Donc parmi les autres jeux, effectivement, on a Duel of Champions qui a été lancé par Ubisoft il y a je sais pas, 5-6 ans au moins. Donc celui-là est très sympa, ça fonctionne sur le même principe que Magic ou Hearthstone. On peut acheter des boosters ou payer avec de la monnaie virtuelle. Il y a un système de jeu qui est un petit peu différent de Magic et d'Hearthstone.
Alors juste pour rappeler, d'ailleurs vous pourrez peut-être me donner le chiffre exact, mais les boosters en fait c'est des petits sachets où vous avez un certain nombre de cartes, pas beaucoup,
c'est un paquet de cartes.
Une dizaine de cartes,
ça
dépend des jeux, entre 10 et 15 cartes.
Voilà, entre 5 même. 5. Pour les plus petits, Hearthstone, 5.
En fait, il y a booster, donc avec quelques cartes, souvent des communes, donc des cartes faciles à trouver et des cartes, une carte rare en l'occurrence. Puis après, il y a ce qu'on appelle les starters, qui sont en fait un paquet de cartes prêts à jouer.
Ouais.
Parce que souvent, il faut entre 30 et 60 cartes en fonction des jeux pour pouvoir jouer. Et, donc voilà.
Donc en gros, on commence avec le starter.
Exactement.
Et puis après, avec les boosters, on peut étoffer son jeu, mettre des cartes plus puissantes, etc.
Exactement.
C'est ça.
Exactement. Okay. Ensuite, on a Pokémon. On a tendance à oublier, mais Pokémon
Il est online.
Ils sont online. Il y a un Pokémon online. Alors moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, et j'avoue que je me suis éclaté. Je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais le nom, mais j'y avais jamais joué. Je trouvais ça génial. Le système de jeu est génial. Le jeu en lui-même, le online, permet de gagner des cartes à foison sans dépenser une thune, quoi. Donc c'est très sympa. Ça vient d'arriver sur tablette. Donc ça y est, le début de semaine, là, ça vient d'être lancé sur tablette et ils annoncent la sortie pour smartphone à terme parce qu'ils ont clairement compris qu'il y avait du chiffre à faire.
Il y a un marché.
C'est ça. Et ce que je trouve bien dans Pokémon, c'est que dans chaque booster que vous achetez dans le commerce, vous avez une carte avec un code en ligne qui vous permet d'avoir vos cartes online.
Ça c'est malin.
Bien, ouais.
Et ça c'est carrément bien. Donc les boosters sont un chouïa plus cher que Magic par exemple, c'est 2€ environ. Mais par exemple, tu achètes ton starter, tu as ton code, tu le tapes dans Pokémon Online, tu as ton starter online.
Ça je trouve ça c'est pas très malin. Ouais, alors j'avoue que j'ai énormément d'a priori sur Pokémon, hein, même si je les assume, mais pour le coup c'est un bon système. Et je crois que Pokémon aussi c'est un jeu de cartes quand même qui est assez ancien, hein, parce que moi il me semble à l'époque où je jouais à Magic, donc c'était il y a une bonne dizaine d'années, il y avait des petits jeunes qui jouaient à Pokémon.
Tout à fait, c'est un jeu qui est vraiment ancien. Alors forcément c'est moins stratégique qu'un Magic. Moi j'ai aussi beaucoup joué à Magic et c'est clair qu'on retrouve pas toutes ces règles. Mais ça reste très sympa et j'y prends plus de plaisir que de jouer à Hearthstone en ce moment. Alors c'est peut-être parce que c'est au tout début, mais
il assume quoi.
Et ouais, carrément, j'assume. Je trouve ça très sympa. Voilà.
Et juste pour savoir, si t'as une idée, le public qui joue à Pokémon, du coup, c'est plutôt des jeunes ou c'est de tout âge? T'en as une idée?
Alors j'ai vu des stats. Donc je pense que le jeu de cartes physique, c'est de tout âge aussi, mais c'est plutôt les jeunes. Par contre, en ligne, c'est une moyenne d'âge entre 28 et 35 ans.
D'accord.
Ceux qui jouent en ligne, voilà.
Moi, ça ne m'étonne pas. Je sais que le jeu, déjà, sur cartouche, il y a déjà des joueurs assez âgés qui y jouent, notamment lors de compétitions Pokémon, où ils se cassent vraiment la tête à réfléchir quel meilleur Pokémon utiliser contre quoi. Donc oui, ça ne me choque pas non plus. Ok, très bien.
Donc voilà pour le tour de piste des plus connus, entre guillemets. Donc maintenant, si vous voulez tester autre chose, il y a quoi? Donc il existe deux jeux pour ceux qui sont vraiment fans de Magic. Il y en a un qui s'appelle X, que vous pouvez trouver sur la plateforme Steam. Là, c'est vraiment du copier-coller de Magic. C'est développé par des anciens de Wizards of the Coast. Ils sont pris un procès par Magic parce que c'est du copier-coller. Et là, on est vraiment en free-to-play, c'est-à-dire que toutes les cartes sont à gagner dans le jeu. Il n'y a pas d'argent à débourser. Aujourd'hui, une des principales principal reproche qui est fait à Hearthstone, c'est ce qu'on appelle un pay to win, donc payer pour gagner. C'est en gros, plus vous achetez de paquets, plus vous avez de cartes et plus vous avez de chances de, bah, d'avoir les meilleures cartes et donc de gagner.
C'est quelque chose d'obligatoire ça sur Hearthstone, enfin, où tu peux quand même jouer sans acheter de cartes.
Tu peux jouer sans acheter.
C'est un peu plus long.
Mais tu te fais dérouiller, c'est ça en gros l'idée.
Ça va être plus compliqué de monter des decks. Et tu risques d'un peu plus galérer peut-être.
Pour gagner des cartes, il faut gagner des parties. Pour gagner des parties, il faut des bonnes cartes. Donc
t'incites fortement à acheter.
Donc X, moi j'ai trouvé ça très sympa. Je vous invite à y aller. C'est, encore une fois, il est gratuit. Il est sur Steam. C'est très sympa pour les fans de Magic.
Tu peux quand même payer.
Alors, t'as un système où tu peux payer, mais je crois que c'est uniquement avec de la monnaie virtuelle celui-là. Je suis pas allé jusqu'à l'achat de cartes, mais voilà. Ça. Et l'autre qui est très sympa, qui existe également sur Steam, c'est Soulforge. Est-ce que ça te parle?
Deux, j'ai déjà entendu parler.
Donc Soulforge, c'est un peu plus old school. En fait, c'est des decks de 30 cartes et à chaque tour, vous tirez 5 cartes. Vous pouvez en poser que 2. Et en fait, l'adversaire, pareil, on pose que 2. Et donc, les cartes s'affrontent. Et ensuite, les cartes sont redistribuées à chaque tour. C'est un petit peu particulier. Ça s'inspire un peu de Donjons et Dragons par rapport à l'univers. Mais c'est très stratégique parce que du coup, comme il y a ce côté, chaque tour, on redistribue les cartes, la constitution du deck est très complexe. Et en fait, les cartes que vous avez sur la table ou que vous avez dans la main réintègrent automatiquement votre deck et elles évoluent. En fait.
D'accord.
Il y a ce côté évolution qu'on retrouve un peu dans Pokémon, mais là c'est ultra complexe. Donc, moi je vous invite à aller y jeter un coup d'œil, c'est très très sympa.
Donc pour quelqu'un de non initié comme moi ou qui connaît peu les jeux de cartes, tu le conseilles ce jeu ou pas?
Alors en fait, tous ces jeux en ligne ont l'avantage d'avoir un tutoriel. Par exemple, demain tu as envie de te lancer dans le jeu de cartes Pokémon, tu seras obligé de te trouver un pote qui va t'expliquer comment on joue à Pokémon, même si dedans tu as un petit livret explicatif. Par contre, dans tous les jeux en ligne, il y a un tutoriel qui va t'expliquer comment on joue. Tu peux jouer contre l'ordinateur.
D'accord.
Voilà, c'est très simple à prendre en main. Et donc pareil, Soulforge, c'est un jeu qui est entièrement gratuit. Faut le préciser parce qu'aujourd'hui, jouer aux cartes, que ce soit aux cartes papier ou même à Hearthstone, ça peut vite demander un petit peu d'investissement. Ça peut faire peur aux parents. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller essayer ces jeux gratuits. Très rapidement pour conclure, pour vous dire que à quel point c'est important pour les éditeurs, donc on l'a dit pour Activision avec Hearthstone, pour Ubisoft avec Duel of Champions, ils vont lancer un jeu de cartes en ligne sur l'univers de Elder Scrolls, donc tout ce qui est Skyrim, Morrowind, ce genre de choses. Ça va s'appeler Elder Scrolls Legends. Aujourd'hui, c'est en phase bêta.
D'accord.
Et donc, ça va faire la transition avec ce que je vais vous dire après, c'est-à-dire qu'on va arriver de plus en plus vers des SCG pour Strategy Card Game. Parce que voilà, l'avenir du jeu de cartes en ligne va passer par plus de stratégie, vers plus d'interaction, vers plus d'environnement 3D entre guillemets.
C'est pas moi, c'est Flo.
Donc en fait, Elder Scrolls Legends, en fait, pareil, on aura des cartes, donc il y aura toujours ce système d'échange, ce système d'achat, mais il y aura un terrain de combat où les cartes vont s'affronter avec un côté beaucoup plus stratégique, avec notamment des emplacements où est-ce qu'on met les cartes. On va retrouver un petit peu ce côté comme Heroes of Might and Magic où les emplacements étaient importants. Et du coup, vous allez bientôt en train de buzzer parce qu'une grande partie de la communauté d'Hearthstone est en train de migrer vers ces jeux qui sont pour le moment encore en phase bêta.
Ah, d'accord.
Alors, il y en a un qui s'appelle Feria. Feria, c'est le jeu qui va buzzer dans les mois qui viennent.
Ah, l'annonce, attention.
Voilà. Attention, c'est celui-là. Donc, non, encore une fois, il y a beaucoup de youtubeurs, beaucoup de streamers de Hearthstone qui sont passés là-bas. Donc Feria, c'est un peu génial, c'est-à-dire que, vous commencez donc toujours avec des cartes, vous commencez à jouer et vous avez une carte du monde, imaginez une carte du monde. Et en fait, quand vous allez poser vos cartes, vous allez ajouter un lieu à votre carte du monde. Vous partez d'un point et toutes les cartes que vous rajoutez vont rajouter une forêt, rajouter un désert. Et en fait, vous construisez une carte du monde.
D'accord.
Et donc votre adversaire fait pareil. Et le but, c'est de faire rejoindre les deux continents. J'essaye de simplifier au maximum. Et quand les deux continents vont se rejoindre, les deux adversaires vont pouvoir commencer à s'affronter. Et du coup, les cartes, quand vous posez une carte de terrain, vous créez le terrain. Contrairement à Magic où la carte de terrain sert juste à amener du mana, bah là, quand vous posez une île, vous créez une île. Quand vous posez une montagne, vous créez une montagne. Quand vous posez une plaine, vous créez une plaine. Et ensuite, sur ces terrains, vous allez pouvoir jouer des créatures. Mais par exemple, une créature île, comme dans Magic, pour ceux qui connaissent, bah là, vous serez obligé de la poser sur une île. Donc du coup, il y a tout un côté stratégique assez complexe qui va se mettre en place. En termes de graphisme, on est proche de Dofus. Je sais pas si pour ceux qui connaissent un peu ce côté un petit peu japanime, très sympa.
Nos amis Ankama.
Exactement. Et donc voilà, donc ça c'est le jeu qui buzz en ce moment.
Ça, je voudrais avoir une réaction de l'expert, de l'équipe sur les jeux de cartes. Est-ce que déjà tu avais entendu parler de ça toi Flo?
De Feria, non. Des jeux de cartes qui passent beaucoup plus en stratégique, gestion et pas que jeux de cartes, oui.
Et qu'est-ce que t'en penses, toi? T'attends ça avec impatience ou
je trouve ça super sympa.
D'accord.
Le seul truc qui me dérange en général le plus sur les jeux en ligne et qui font que je vais rester ou pas, c'est le côté hasard. Quand il y en a beaucoup trop, Hearthstone pour ne pas le citer, ça m'ennuie vite. Mmh. Et l'autre côté, c'est quand faut vraiment, t'as pas le choix, faut passer par les cartes bleues si tu veux arriver à avoir les cartes intéressantes, etc. Et c'est ça s'ennuie aussi.
D'accord.
Donc, moi j'attends avec impatience. C'est comme ça, j'adore les jeux de cartes.
Ok, vu de l'expert, ok, très bien, on note.
Et du coup, le deuxième jeu qui est en train de buzzer, enfin qui va buzzer dans les mois qui viennent, c'est Duelist. Donc, on mettra peut-être tous les liens sur la page
Facebook. Ouais,
je te filerai les noms. Et donc, Duelist, pareil, on est vraiment dans l'univers proche de Dofus avec des petites cases. Il faut avancer, il faut affronter son adversaire, il faut lui envoyer des sorts, il faut poser des créatures. Sauf qu'on est vraiment sur de la 3D, il y a un impact de là où on pose les créatures, de là où on pose les sorts, et on est toujours un peu dans un univers graphique proche de Dofus. Voilà, surveiller de très près ces deux jeux, ça modifie le gameplay. Vous avez toujours ce côté jeu de cartes, mais vous avez ce côté stratégique. Et je pense que certains joueurs sont en train de se lasser un peu d'Hearthstone ou d'autres parce que voilà, on en fait vite le tour entre guillemets. Alors il y a les passionnés qui vont continuer de jouer de manière hardcore, mais les joueurs veulent de plus en plus de stratégie, de plus en plus de complexité, et Feria et Duelist vont apporter tout ça.
D'accord.
Et pour finir, pour confirmer que le jeu de cartes aujourd'hui prend de l'importance, c'est que même sur smartphone, alors on n'est pas vraiment dans du trading card game, mais de plus en plus de jeux intègrent dans leur gameplay des cartes. Mmh. Et le dernier en date, c'est Clash Royale. Je pense que vous avez dû en entendre parler.
C'est à ça que je pensais en gestion jeu de cartes, mais je ne veux pas parler de ce jeu parce que c'est uniquement de l'argent. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup, une grosse part d'argent. Et puis, c'est une structure qui n'a pas besoin de pub. Voilà. Et j'aime pas.
Voilà,
boum, Supercell, boum.
Voilà. Bon, bah alors, Greg, débrouille-toi. Continue.
Bon, alors effectivement, Clash Royale, il n'y a peut-être pas besoin d'en parler, mais bon, c'est un système de cartes. Vous constituez un deck avec, je crois, 8 cartes, sauf erreur, et vous les posez, et puis votre adversaire fait pareil, ça s'affronte, et puis bon, voilà, si vous avez des sous, vous pouvez avoir des meilleures cartes. Je vous en cite 2-3. Il y a Shadow of Era, qui fait partie des très vieux jeux de cartes sur smartphone, un peu dans l'esprit Magic, qui est plutôt pas mal, et un autre qui s'appelle Evoker, qui est un peu le Clash Royale Heroic Fantasy old school, mais on est sur le même système, vous posez des cartes, vous affronterez votre adversaire. Moi, je voudrais juste vous parler de mon coup de cœur du moment.
Allez, vas-y, fais-toi plaisir.
Alors, qui s'appelle Card Crawl. Donc, pareil, on mettra tout ça sur la page Facebook. Mm-hmm. Donc, pareil, vous êtes dans un donjon un peu à la Shadowgate. Je ne sais pas si ça vous parle, vous entrez. Il y a une espèce d'orque qui tient un comptoir et donc vous l'affrontez. Et en fait, il a un deck de 60 cartes. Et en fait, il vous les balance comme ça. Il vous balance 4 cartes chaque tour, et vous allez devoir enlever 3 cartes à ce deck. Donc vous avez 2 mains dans lesquelles vous pouvez mettre des armes, donc une épée ou un bouclier, et vous avez un sac. Et dans ces 4 cartes, bah, vous pouvez par exemple prendre une épée, prendre un bouclier, et il y a une créature, et cette créature, à un moment donné, il faut l'affronter. Donc soit vous l'affrontez avec votre bouclier, soit vous l'affrontez avec votre épée, soit vous l'affrontez, vous la prenez en faciale. Du coup, vous perdez des points de vie. Et le but, c'est que d'arriver à zéro, que le maître du donjon n'ait plus de cartes en main et que vous soyez toujours en vie. Et en fait, c'est super génial parce que sur les 4 cartes qu'il vous balance, il faut en prendre 3. Donc quand vous en avez pris 3, il vous rebalance 4 cartes. Mais il peut vous balancer 4 créatures. Et si vous n'avez pas d'épée, si vous n'avez pas de bouclier, bah, vous les prenez en frontal. Sauf que vous avez 13 points de vie, Donc c'est pas comme dans Magic où vous avez 30 points de vie, c'est pas comme dans Hearthstone où vous avez, je sais plus, 30 ou 20, enfin bref. Là, vous avez 13 points de vie, et quand vous avez 4 cartes qui ont 10 en attaque qui sont posées, vous faites déboîter, quoi. Et c'est génial, c'est gratuit. Alors, il y a une version free-to-play, si vous voulez le débloquer ça, entièrement, ça vous coûte 2 euros. Mais voilà, c'est mon vrai coup de cœur du moment. C'est une belle alternative à Clash Royale. Donc, Flo, toi qui déteste Clash Royale, je t'invite à tester Card Crawl. C'est très sympa, vous allez passer du bon temps sans dépenser forcément beaucoup d'argent.
D'accord.
Voilà.
Eh ben, parfait. Autre chose, pardon, je te coupe.
Très rapidement, pour vous dire que selon les analystes, le marché va encore être en forte croissance. Donc, de tous ces jeux de cartes en ligne, ils prévoient 5% de croissance pour le marché dans les 2-3 ans qui viennent. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. On risque de voir tous les éditeurs débouler avec ça. Par exemple, Electronic Arts, sauf erreur, qui est un des plus gros acteurs du marché, n'a pas son jeu de cartes en ligne. Je ne vois pas comment il pourrait s'en passer. Le problème, c'est qu'à force... trop de jeux de cartes, le jeu de cartes.
C'est ça,
La qualité n'est pas toujours au rendez-vous et on en revient toujours au basique. Je vois, moi, comme toi, Flo, hein, j'en ai testé beaucoup, beaucoup, beaucoup et je finis toujours par revenir à Magic Online parce que finalement, c'est le seul qui a réussi à amener autant de complexité, autant de variété dans le jeu. Mmh. Donc voilà, n'hésitez pas à les tester, n'hésitez pas à faire le tri. Mais voilà, je pense qu'ils vont tuer la poule aux œufs d'or à force et d'ici 5 ans,
ça sera pas surprenant.
Ce sera passé un petit peu de mode. Je sais pas ce que t'en penses, Flo.
Je pense que d'ici 3-4 ans, peut-être beaucoup vont mourir et resteront ceux qui sont les plus intéressants finalement.
Ah, je pense que ça s'épurera naturellement finalement.
Je pense que ça s'épurera naturellement, ouais.
Bon, bah, espérons-le. Très bien, très bien. Bah, merci Greg. Là, on va se faire une coupure musicale. On va se passer la musique de World of Warcraft, Night Song. On revient dans un instant. C'est l'heure du jeu. On est ensemble de 12h à 13h. À tout de suite. Where? De retour dans l'ère du jeu avec cette magnifique chanson de World of Warcraft, donc Night Song. Voilà, donc très très beau morceau. De retour de 12h à 13h, voilà, c'est l'ère du jeu, votre rendez-vous, le seul, l'unique, le numéro 1 des rendez-vous lyonnais où, qui parle de jeux vidéo, de high-tech, de jeux de société, le seul où sachez que vous pouvez retrouver les podcasts sur le Facebook, sur aussi Radio Canu, et je le dis d'ailleurs, je ne le dis pas assez souvent, sachez que si vous n'êtes pas dans la région lyonnaise, ou si vous êtes en déplacement, vous pouvez écouter Radio Canu via la plateforme et via le site Radio Canu, voilà, donc je le sais, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à écouter ça donc sur internet tranquillement avec radiocanu.org. Voilà, bah, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour de ce que je devais dire. On va passer à la deuxième partie. Alors comme je vous le disais, attention, c'est une émission un peu particulière puisque on va avoir 2 ans maintenant. Et alors, je me suis posé la question. En fait, tout simplement, j'ai jeté mes magazines et je me suis dit, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passait il y a 1 an déjà pour commencer, quand on fêtait nos 1 an. Alors, d'après vous, comme ça, de tête, je sais que ça va être très compliqué, surtout que je ne vous ai pas prévenu avant. Est-ce que vous vous souvenez d'événements marquants qui ont lieu l'année dernière dans l'industrie du jeu vidéo ? Non.
Ah ouais, c'est dur, hein, dur, hein. Sur le saut du lit, là.
Je sais. Non, pas d'idée.
On commençait à parler de l'Oculus Rift de manière un peu plus.
Exactement, plus tout à fait. On commençait vraiment à parler de l'Oculus Rift et on était plutôt dans l'attente d'une date de sortie. On avait eu plusieurs tests, plusieurs versions. Il y avait eu notamment le casque de Sony qui avait été annoncé un petit peu avant, le projet Morpheus. Au final, alors bilan des courses, aujourd'hui ils sont sortis ces casques, pour la plupart, pas tous. D'autres qui vont commencer à arriver cette année. Pour l'instant, faisons un petit parallèle. Vous l'avez vécu comment, vous, ces sorties de casques? Ça a changé quelque chose pour vous, pour l'instant? Comment vous le vivez?
Pour l'instant, ils sont sortis, ils sont disponibles, mais ils sont pas vraiment encore grand public, on va dire.
Ouais.
Ils restent assez chers, il y a assez peu de jeux qui vont en profiter. Enfin, il me semble, en tout cas, ça, je suis pas trop au courant, mais j'ai pas trop entendu parler de ça. Je pense que pour l'instant, c'est pas encore grand public.
Ouais. Et toi, Greg, qu'est-ce que t'en penses alors de l'arrivée de ces casques maintenant qu'ils sont commercialisés par rapport à un an, tu vois, avec le recul maintenant?
Je suis très geek, donc forcément j'attendais ça avec curiosité et impatience. Alors après, c'est pas abordable du tout, hein, là. Aujourd'hui, un Oculus Rift ou même l'autre là qui est sorti, le HTC Vive, qui je crois est un peu plus puissant que l'Oculus Rift. Aujourd'hui, il faut compter 800, 1000 euros, un PC bête de course derrière pour faire tourner très peu de jeux. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout abordable. Par contre, j'attends clairement le Morpheus de Sony.
Qui est annoncé aux alentours de 400 euros, qui devrait arriver en octobre. Ouais. Justement, il y a les développeurs, alors je crois que c'est Valkyrie, j'ai perdu le nom exact, j'avais vu une interview, il expliquait qu'au début, donc c'est un vrai jeu, on est dans l'espace, on a le casque, ça pète dans tous les sens. Il disait que bon, vous inquiétez pas, au début, ça va vous brasser un petit peu, il faut le savoir, ça va vous brasser, mais vous verrez qu'avec le temps, normalement, vous vous accoutumerez à ça et vous aurez plus de soucis. Donc voilà, moi aussi, j'attends vraiment avec impatience. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des alternatives avec le Samsung Galaxy Gear, je crois. Non, j'ai perdu le nom. Le Samsung VR, voilà, c'est ça. Qui est un casque où vous pouvez mettre votre téléphone Samsung et puis vous pouvez bénéficier un peu de la réalité virtuelle à moindre coût.
Et plus le temps passe et plus malheureusement je pense que ça va rester du gadget. J'y crois plus. Autant il y a 2 ans en arrière quand ils ont commencé les annonces, tu vois le fait que l'Oculus a été racheté par Facebook, on l'a testé, on a eu l'occasion de le tester lors de soirées GameAge. Je m'attendais à tellement que je pense j'y croyais trop, quoi.
T'étais déçu?
J'ai peur que ça reste du gadget. Alors, comme le PlayStation Move ou tous ces trucs.
J'ai hâte d'être dans, j'ai 2 ans à peu près pour voir vraiment ce que les éditeurs vont réussir à en faire de ça, voir si ça restera de l'ordre du gadget ou si ça apportera un vrai plus.
C'est marrant parce que du coup là on voit qu'on est toujours un peu dans le même débat où il y a des gens qui sont très très là en train de dire non mais c'est une révolution, il y avait un avant et après Oculus Rift, et il y en a qui sont pas convaincus. C'est assez marrant. Faut savoir quand même que dans la région lyonnaise il y aurait un projet d'une sorte de bar VR, donc un bar où il y aurait des Oculus Rift, où on pourrait être plusieurs, un peu comme ces salles d'antan où on pouvait faire des LAN, Il y a un projet qui est en train de se monter, de ce que j'ai cru entendre. Voilà, on va voir ce que ça va donner, ce que ça va donner.
Tu nous annonces un truc, tu montes une affaire.
J'aurais adoré, mais non, c'est pas moi pour le coup. Voilà, c'est les petites rumeurs qui circulent dans la région lyonnaise.
D'accord.
Bon, sinon, alors on a eu quoi d'autre qui se profilait l'année dernière et qui faisait beaucoup parler. Il y a eu un événement, alors je sais pas si vous, ça va vous parler particulièrement, mais on parlait énormément de Final Fantasy 15, voilà, parce que on avait rebaptisé cet épisode. Au début, c'était censé être le 13 versus. Pendant très longtemps, il a été annoncé il y a presque une dizaine d'années, ce jeu, 9 ans peut-être, je crois. On l'a attendu, il a été rebaptisé Final Fantasy 15, ça a fait le buzz, ça a relancé un peu l'engouement autour de ce jeu. Faut savoir que la licence Final Fantasy, c'était une licence très 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 puissante au Japon et même dans le monde jusqu'à l'épisode 10 à peu près. Et que là depuis ça a perdu un peu de sa splendide.
Et comme par hasard, c'est depuis qu'ils ont changé leur système de combat, qu'ils veulent plus faire du vrai JRPG en tour par tour, ce que les gens aiment, ce que les gens veulent, et ils font pas ça et ils se plantent.
Et le problème, c'est que sur ce genre de licence, on se rend compte que les JRPG ont quand même perdu un peu. Mais c'est vrai que Final Fantasy est une licence tellement forte que s'ils se remettaient sur du tour par tour, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Je te le dis tout de suite, Flo, ça ne sera pas un tour par tour. Il y a une démo qui est disponible en ce moment. Ça se rapproche plus d'un Zelda, on va dire, je pense.
Voilà, ils appellent ça Final Fantasy et c'est pas du Final Fantasy.
J'ai fait la démo, je me suis fait chier, quoi.
Ouais, t'as pas du tout aimé.
Je suis comme Flo, moi je suis un grand fan des Final Fantasy, le 6, le 7, enfin les épisodes canoniques, enfin les. Mais là je me suis fait chier, c'est très joli. Mmh. T'avances dans des espèces de couloirs, ils te font croire que c'est en monde ouvert, mais que dalle.
C'est vrai.
Et puis tu te fais chier les combats, c'est chiant, quoi.
C'est très différent, ça change beaucoup. Pour info, ils ont quand même annoncé aussi un remake de Final Fantasy 7 qui ne sera pas du tour par tour. Voilà. C'est histoire de briser tout.
Non, mais je sais, mais ils appellent ça un remake. C'est pas un remake. Enfin,
tu nous as niqué la journée.
Voilà. Donc on en parlait.
Je suis content que ça marche pas.
On se demandait ce qui allait arriver. Ils ont quand même sorti un gros projet autour de Final Fantasy 15, puisqu'il y aura un film d'animation. Il y aura en plusieurs épisodes disponibles sur YouTube. Il y a aussi, il me semble, un vrai film façon Adventure Run qui sortira. Il y a un mini-jeu aussi ils ont essayé de mettre le paquet. Ils veulent reconquérir leurs fans. Visiblement, il y en a deux ici qui sont sceptiques.
Pour Square Enix, c'est clairement l'épisode de la dernière chance. Hein. Clairement. Hein. Je pense que s'ils se loupent sur le 15, la licence Final Fantasy, on ne va pas la revoir tout de suite.
Ouais.
Elle ne mourra jamais, cette licence. Elle est immortelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il risque d'y avoir un break assez long et elle reviendra au basique dans quelques temps, quoi.
Mais il y a les épisodes online qui les sauvent un petit peu.
Ouais, le Final Fantasy 14 online est vraiment sympa et il fonctionne bien. Il y a une extension il n'y a pas très longtemps, il y a encore pas mal de joueurs.
Très plaisante. Ouais.
Sinon, dans les autres choses qui faisaient énormément parler et qu'on attendait avec impatience, c'était les Steam Machines.
Les Steam Machines.
Est-ce que vous vous en souvenez des Steam Machines? C'était ou appelé aussi les Steam Box à l'époque.
Ouais,
c'était des sortes de PC hybrides, des sortes d'ordinateurs avec un format de console qu'on pouvait poser donc sur sa télé et qui nous permettait de jouer au contenu qu'on pouvait avoir via Steam. Alors, faut savoir que ces machines-là sont sorties, elles sont sur le commerce. Est-ce que vous, depuis, vous en avez entendu parler et qu'est-ce que vous en pensez maintenant avec le recul, sachant qu'à l'époque c'était vraiment le gros buzz il y a un an?
Tu viens de m'apprendre que c'était commercialisé.
Voilà.
mais je crois qu'en fait, maintenant, c'est plus vraiment une machine. En fait, c'est un boîtier, je crois, qui se branche sur la télé et qui permet de streamer sa bibliothèque Steam. Et du coup, il faut une connexion de malade mental parce que c'est des jeux en stream, c'est ça?
Alors, il y a deux fonctions, notamment sur les Steam Machines. C'est vrai que j'ai été obligé de faire des recherches puisque je ne savais même plus à quoi ça servait. Je regardais dans mes magazines, je me suis dit, ah, mais c'est vrai, on en parlait. Alors, il y a deux fonctions. Effectivement, on peut streamer le contenu qui est sur notre ordinateur ou sur Steam directement sur notre box et de manière à pouvoir jouer sur son écran de télé avec une manette qui paraît qui n'est pas du tout pratique d'après les critiques. Où on a la possibilité effectivement de jouer à certains jeux Steam via l'OS SteamOS, mais a priori les machines sont pas assez puissantes pour faire tourner tous les jeux du catalogue, donc on se retrouve avec un catalogue un peu réduit. Pour rappel ou pour info, je crois que l'une des Steam Box les moins chères elle est dans les 800 €, voilà. Et a priori, alors d'après les critiques aujourd'hui, ils disent que ça regroupe tous les défauts du PC et tous les défauts de la console, et ils ont créé une nouvelle machine à savoir ça, puisque bah, ceux qui ont des ordis, ils aiment bien pouvoir bidouiller un peu leurs ordis avec les Steam Machines, ils ne peuvent absolument pas le faire, et l'intérêt de la console, c'est que ça soit un peu moins cher, et au final, bah, on se retrouve sur des produits qui sont deux fois plus chers.
Puis ils ont été obligés, je crois, de baisser la résolution de quasiment tous les jeux pour que ça passe sur les écrans de télé et puis que les machines les supportent, quoi. Aujourd'hui, si c'est pour jouer à un jeu PC avec une qualité graphique moins bonne que sur son PC, j'y vois pas l'intérêt, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça sent le gros échec commercial. Il y a plusieurs gens en plus qui sont lancés dedans en se disant ça va être génial, ça va tout révolutionner. Et là, avec le recul, bah, beaucoup de gens disent écoutez, quitte à mettre 1000 balles dans quelque chose, autant le mettre dans un ordi plutôt que de le mettre dans une machine que je pourrais pas upgrader avec le temps et voilà, qui sera perdu. Bon, après il y avait encore pas mal d'autres choses. Je ne vous parlerai pas des sorties cinéma avec les Avengers, l'ère d'Ultron ou les Fast and Furious 7. Je n'ai pas le temps de vous parler de Bloodborne qui a été un très très bon jeu. Il y a eu Resident Evil Révélation 2 qui est sorti. On a eu aussi le départ de Kojima, donc le papa de Metal Gear, et qui entre-temps a monté un studio. Voilà, bon, c'est des choses qui se sont passées, les grands moments. On en reparlera dans 2 ans pour voir comment ces Steam Machines ont vécu, ce que ça a donné, comment on s'en sort Steam avec tout ça. On va se faire une coupure musicale rapidement, et puis on revient pour aller encore plus loin. On va essayer de discuter de ce qui s'était passé il y a 2 ans. En attendant, bah, qu'est-ce que je vais vous passer? Je vais vous passer, allez, Combi Christ, Never Surrender, c'est une musique tirée du jeu vidéo Devil May Cry 5. Restez avec nous, on revient dans un instant, c'est l'heure du jeu. Société, de jeux de cartes aussi, voilà, on a appris pas mal de choses sur les jeux de cartes en première partie avec Greg. Je te remercie d'ailleurs pour cette première partie et je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast. Donc on va essayer de faire ça pour lundi, je vous promets rien, mais on va essayer de faire ça pour lundi. Juste, à l'instant, on parlait de ce qui s'était passé il y a un an, les événements marquants, voilà, avec un peu de nostalgie. J'ai juste oublié de citer aussi qu'on attendait le comeback des jeux musicaux comme les Guitar Hero et Rocksmith. Toi, Greg, qui aime bien ce genre de jeu, alors comment tu l'as vécu, toi, ce comeback, finalement, maintenant qu'ils sont sortis?
Ouais, c'est vrai que je l'attendais parce qu'il n'y en avait pas encore sur PS4 et puis j'ai des bons souvenirs de soirées avec ces jeux musicaux.
Idem.
Assez
discret. Hein.
Ouais, j'ai perdu la flamme.
J'ai vu que l'engouement n'a pas suivi.
La mode est passée.
Ouais. L'engouement n'a pas suivi. C'est dommage, ça revient un peu à ce que tu disais. Je pense qu'ils ont inondé le marché de jeux musicaux et les gens, ils en sont arrivés à saturation. Troisième partie, on va remonter encore plus loin, on va remonter à il y a 2 ans, au moment où on commençait à prendre l'air du jeu. Alors, comme événement marquant, on va commencer softement, on va parler des jeux qui étaient vraiment très très attendus, des jeux qui étaient censés tout révolutionner. Pour commencer, on va commencer par Titanfall. Titanfall, c'était vraiment le jeu qui était ultra attendu, le jeu qui devait tout révolutionner. J'ai dit « devait ». Donc je m'avance un petit peu. Vous, avec le recul, là, maintenant, avec ces 2 ans, Titanfall, qu'est-ce que ça donnait? Flo, toi, Titanfall, non?
Je ne sais même pas qu'il existait, ce jeu.
Voilà, alors, très bien.
Titanfall, c'est une grosse déception, en fait. C'est des anciens d'Infinity Ward, je crois, studio qui avait développé les premiers Call of Duty. Les mecs, ils se sont fait virer, ils ont monté leur propre studio. Du coup, ils ont décidé de lancer une nouvelle licence, en l'occurrence Titanfall. Donc, beaucoup d'attentes par ses créateurs, entre guillemets. C'est quand même les premiers à avoir instauré de la verticalité dans un FPS. Et du coup, ça a été repris par la plupart des FPS aujourd'hui. Donc, ça vient de Titanfall à la base. Moi, ma grosse déception vient du fait qu'il n'y avait pas de solo. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans Call of Duty, la plupart des gens font que le multi et pas le solo. Mais un jeu vidéo sans solo, m'inquiète pas des masses, quoi.
Juste pour rappel,
c'est
voilà.
Comme Star Wars sans solo, c'est
bizarre. Ouais, j'avoue. C'est un jeu donc pour faire simple, hein, où vous êtes à la première personne, donc vous voyez ce que voit votre personnage, vous avez votre arme. Il y a des ennemis contrôlés par l'ordinateur et des ennemis en vrai. Voilà, vous vous affrontez. Vous pouvez, comme tu dis, monter. Donc vous pouvez faire des super sauts, grimper sur les murs, je crois, courir sur les murs. Je crois aussi que vous aviez la possibilité d'avoir des super armures géantes. Voilà, c'était censé sur le papier, c'est vrai que c'était assez prometteur. Au final. Ouais, l'engouement s'est assez vite essoufflé, hein. On va pas se mentir, aujourd'hui on n'entend quasiment plus parler ou très très peu.
Alors le 2 arrive,
aha.
Le 2 a été annoncé, je pense qu'ils vont apprendre de leurs échecs, il y a déjà un mode solo qui a été annoncé et on verra ce que donne Titanfall 2.
Sinon, toujours dans les jeux qui faisaient énormément parler, il y avait un jeu, alors je compte surtout sur celui-là puisque je le connais un peu moins, c'est Elder Scrolls Online. Voilà, qui devait arriver à ce moment-là. Je vous avoue que j'ai suivi ça de très très loin. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce jeu. Il était vraiment attendu comme le Messi. Au final, qu'est-ce que ça a donné, Flo?
Alors, j'y avais joué un tout petit peu sur la bêta. J'ai pas accroché plus que ça. Je pense qu'il a fait partie des nombreux MMO qui arrivent, que les gens essayent, jouent un an et arrêtent parce qu'il ne devait probablement pas apporter énormément par rapport aux autres.
Voilà, donc plutôt une déception. Toi aussi, pour toi, Greg, une déception, ce jeu?
Alors, pour le coup, j'y ai joué un petit peu plus. J'ai trouvé des éléments sympas. Graphiquement, il est très joli. Voilà, il y a une petite communauté de fans. Bon, il y a une nouvelle extension là, qui sort dans les prochains jours.
D'accord.
Mais pareil, c'est un jeu, c'est pas grand public. Ça s'adresse vraiment aux très grands fans de la saga Elder Scrolls.
Alors... Bon, je vais vous donner un élément de réponse du gros truc qui faisait vraiment parler avant, mais je vais quand même continuer sur les jeux. Il y avait un jeu qui a fait énormément parler cette année-là, c'était Assassin's Creed Unity. Voilà, donc Assassin's Creed, donc une licence qui revient chaque année, ou qui revenait chaque année, puisque maintenant ils font une pause, qui revenait chaque année. Là, c'était le premier épisode sur PlayStation 4, un jeu donc qui était énormément attendu et qui a souffert énormément d'énormes bugs, voilà, qui empêchaient même de jouer. Je crois qu'on téléchargeait le jeu, enfin le jeu, les mises à jour de jeu étaient encore plus volumineuses que le jeu lui-même. Voilà, ça a été un gros échec pour Ubisoft de ce côté-là. Ils ont perdu la confiance d'énormément de joueurs et ils ont du mal à les reconquérir. Vous l'aviez essayé, vous, Assassin's Creed Unity? Pas du tout.
Moi, pas du tout.
Pas du tout, ça t'intéressait pas du tout?
Non, mais sont des, ouais, les jeux comme ça, justement, qui sont juste solo, etc.
Ouais, pas trop ta tasse de thé. Non. Ok, toi, Greg?
Moi, j'ai laissé tomber Assassin's Creed après Black Flag.
Ouais,
parce que pareil, la version du un jeu qui sort tous les ans, on change juste l'univers, mais le gameplay n'évolue pas, voire même régresse d'un jeu à l'autre. Mm-hmm. C'est bon, quoi. Ils ont tué la poule aux œufs d'or. Là. C'est
acté, ouais. Je pense qu'ils ont pris ils auraient dû faire cette pause avant, à mon avis.
Ouais.
Et faire un jeu un peu plus espacé dans le temps plutôt qu'un chaque année. C'est vrai que moi aussi j'étais un grand fan, je vous assure, je m'étais fait les jeux d'affilée et là moi aussi j'ai un peu saturé et Unity ouais, m'a calmé. Sinon le gros élément qui faisait énormément parler c'était tout simplement le lancement des consoles PlayStation 4 et Xbox One. Elles venaient tout juste d'arriver, tout juste de sortir sur le marché. Elles étaient sorties pendant les fêtes et on savait pas trop du coup quelle console choisir. Hein. Faut savoir qu'à la base, je crois que la console de tête Microsoft était 100€ plus chère, donc je crois qu'elle était dans les 500.
Ouais, et puis elle obligeait à acheter Kinect avec. C'est pour ça qu'elle était si chère.
Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait Kinect avec, donc 100€ plus cher, et on avait la PlayStation où la caméra elle était une option. Juste avec le recul comme ça, vous comment vous le voyez avec le recul maintenant, c'est cette guerre des consoles. Si ça vous intéresse, si vous en foutez, si vous pensez qu'il y a un vainqueur ou pas.
Pour moi aujourd'hui, la guerre des consoles est clairement remportée par Sony de loin.
Ouais. Toi, Greg,
cette guerre des consoles. Mais les PC c'est quand même mieux. Hein.
C'est quoi Xbox? Je connais pas.
Il y a quand même pas mal de fans de Xbox, mais il faut savoir qu'à la base, alors j'ai relu quand même les fiches sur la Xbox One, c'est vrai qu'elle avait un projet très très intéressant, hein, quand même, il faut le rappeler. À la base, votre console, vous arrivez, vous posez dans votre canapé, tu disais allume-toi, elle s'allumait toute seule. Tu disais alors lance-moi Skype, tu pouvais directement parler à Skype vu que tu avais la caméra avec les gens, tu pouvais lui dire mets-moi le programme télé de ce soir, hop, ça la lançait, ça enregistrait, vous pouviez lancer des parties, elle vous reconnaissait. C'est-à-dire que vous arrivez, vous vous posez, tu dis allume-toi, la console, elle pouvait te dire bonjour Nas, à quel jeu tu veux jouer. Enfin, c'était un projet de malade mental sur le papier.
Sauf ouais, que... mais comme dit le slogan de PlayStation, c'est pour les gamers, quoi. Enfin, moi, je m'en fous que ma console elle s'allume quand je pose mon cul dans le canapé, quoi.
C'est ça.
Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit pour jouer, que ce soit bien, quoi.
Et c'est ouais. Ça. Et justement, je pense que Sony, eux, ont misé juste sur une forme un peu plus simple, hein, au final, donc une console pour jouer. Ils ont développé quelques petits éléments, hein, ils ont tiré quelques leçons du passé, mais ils se sont pas autant énervés qu'Xbox. Xbox, ça semble être compliqué. D'ailleurs, ils ont modifié leur console à plusieurs reprises. Au début, elle devait pas avoir de CD. Ils sont revenus dessus, ils ont mis un lecteur CD. Elle ne devait pas avoir de, elle devait avoir une caméra obligatoire. Bah, au final, la caméra, ils l'ont enlevée. Donc, la Xbox One, ça l'a un peu plombé parce que c'était, son principe de base.
Et il y a quand même de très, très belles exclus chez PlayStation.
Ouais.
Uncharted 4, là, qui va sortir la semaine prochaine. Celui dont t'as parlé, la Bloodhound, qui est une super exclus.
Ouais.
Enfin, voilà, je pense que c'est aussi ce qui a tué la bataille, c'est les exclus.
Pendant que Flo casse la table de Radio Canu, tout va bien. Donc voilà, c'est vrai que c'était vraiment la grande guerre, on savait pas trop, il y avait encore cet affrontement, même si ça, j'avoue, hein, moi j'étais plus Sony parce que ça tout coûtait moins cher. Hein. Au final, je pense quand même que Sony a gagné la bataille, même Nintendo s'est assez vite couché finalement, hein, n'a pas fait grand chose de sa Wii U, et pourtant, pour ma part, je trouve que c'est plutôt une machine correcte. J'apprécie de pouvoir jouer avec mon pad dans ma chambre, franchement. Ou quand la télé elle est occupée. Mais voilà, gardez console, a priori, vainqueur Sony. On va voir comment ça va se passer. Hein. Ça se trouve, il peut y avoir un revirement de situation. Et on est quand même à une heure où, effectivement, comme tu le soulignes, de plus en plus de gens commencent à jouer via leur PC.
On recommence.
C'est triste.
Pourquoi c'est triste?
C'est très bien.
Parce que les PC, c'est plus cher. Hein.
Non, non.
Et si, ça coûte juste plus cher, mais c'est vrai que les ordinateurs sont beaucoup plus puissants. D'ailleurs, on se rend compte que de plus en plus d'usages vraiment PC sont vraiment pour les jeux vidéo. On a tendance à utiliser les tablettes vraiment pour aller sur Internet. Donc, tout laisse penser que tout s'oriente là-dessus. On va voir ce que vont nous prendre les prochaines générations de consoles. Je ne sais pas. Voilà. Donc, après, est-ce que vous voulez que je joue aussi d'autres jeux dont on parlait beaucoup rapidement? Il y avait Tomb Raider qui faisait énormément parler, le premier, le reboot de Tomb Raider. On avait Halo 5 aussi, qu'on attendait énormément. Il y avait Evolve, Donc un jeu où on était trois chasseurs ou quatre chasseurs et on devait affronter des grosses bêtes. Donc un joueur incarnait une grosse bête et puis les autres incarnaient les chasseurs. Donc c'était un peu un jeu déséquilibré volontairement. C'était censé être aussi une révolution, quelque chose d'énorme finalement. Ça a plutôt fait un bide. Et on avait le fameux, le génialissime ou pas, Metal Gear Ground Zero, qui était donc une amorce du jeu Phantom Pain, donc une démo en gros pour beaucoup payante, dans les 30 euros, voilà, qui permettait de jouer. Tu l'avais testé, Flo, avec moi. Et oui, tu l'as peut-être oublié, mais je t'avais invité à le tester.
Si, ça me dit quelque chose, oui.
Et on s'était plutôt marré, mais c'est vrai que bon, voilà, ça faisait un peu cher la démo. Donc voilà ce qui s'est passé ces deux dernières années. On voit quand même que bon, les choses ont évolué, mais il n'y a pas eu de révolution extraordinaire, hein, finalement, contrairement à tout ce qu'on nous a un peu vendu dans les magazines. Ouais, le retour des jeux musicaux, les casques virtuels. Pour l'instant, c'est assez calme. On verra l'année prochaine pour de nouvelles aventures ce qui va se passer. Vous pensez qu'il y aura quelque chose de nouveau, une révolution vraiment, ou vous pensez que ça va suivre son chemin pépèrement?
Je pense qu'on va assister à... On n'a pas trop parlé, mais ce qui a évolué finalement depuis deux ans et aujourd'hui qui est d'actualité, et je pense qu'il va encore évoluer pendant les années à venir, c'est le casual gaming avec les jeux sur tablette, sur smartphone, avec tu vois, des jeux de cartes, plein de petits jeux comme ça qui sont en free-to-play et qui rapportent énormément d'argent.
Un système extrêmement lucratif.
La révolution que j'attends, c'est l'arrivée de Nintendo sur les smartphones. Je pense qu'ils ont une puissance de frappe au niveau d'inventer des jeux, quoi. Donc il y a déjà le Miimoto là, qui est sorti. Là, voilà. Il y a Pokémon Go qui va sortir en réalité virtuelle. Ouais, aller attraper ses Pokémon dans la rue en réalité virtuelle, ça va être génial. Et je pense que dans 5-10 ans, on va voir la mort de Nintendo en constructeur de consoles, comme on a vu la mort de Sega, et que Nintendo va uniquement devenir éditeur de jeux. Et notamment sur smartphone. Et voilà.
Ouais, moi je suis un peu plus sceptique. Je pense que ça arrivera peut-être, effectivement, mais il faut voir quand même que Nintendo est quand même l'un des seuls constructeurs qui construit des consoles pas à perte. Ils ont tellement cartonné avec leurs jeux, que ce soit Pokémon et autres, qu'ils ont une trésorerie. Ils sont refaits. Donc s'ils veulent, je crois que j'en parlais avec les gars de puissance de Nintendo, s'ils veulent, ils peuvent continuer encore sur 3-4 consoles à échec, sans sourciller.
C'est une bonne nouvelle.
Voilà. Bon, bah écoutez les amis, on va rendre l'antenne. On va faire la place au petit bazar. Sachez juste pour rappel qu'il y a Awa qui était venu la semaine dernière et qui lance les intergalactiques toute cette semaine. Voilà. Donc si vous aimez tout ce qui est SF, allez sur la page de Awa. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc ici même. On aura des invités en plus. Donc voilà. Merci à vous deux d'être venus pour cette émission pour les deux ans de l'ère du jeu. Ça m'a fait plaisir. Et puis, on va passer un bon week-end et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Allez, ciao, ciao.
Bon week-end.